bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, donc trois invités pour ce direct sur Fréquence Mistral. On va parler aujourd'hui de l'ATSEA 04, cette association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-de-Haute-Provence, donc avec trois éducatrices spécialisées en prévention spécialisée à l'ATSEA. Il s'agit de Sonia Inchberger, Maud Leitz et Clara Dallon. Voilà, bienvenue. Et donc, je donne la parole à Sonia tout d'abord pour revoir un peu ce qu'est l'ATSEA et l'émission.
En fait, on va le faire en binôme, on va le faire avec Maud. Donc, l'ATSEA est une association de protection de l'enfance. Mais Maud est bien plus expérimentée que moi et a une, on va dire, une bonne expérience dans l'association. Donc, je vais lui passer la main pour l'historique de l'association.
Donc l'ADSEA 04, c'est une association qui existe depuis 1965 sur le département. Son siège social est basé à Digne-les-Bains et tous ses différents services et établissements regroupent sur tout le territoire du département. Il y a deux établissements en milieu fermé. Il y a une MEX à Barcelonnette et il y a depuis peu de temps le centre éducatif fermé qui a ouvert ses portes sur la commune de Digne-les-Bains. Ensuite, il y a différents services. Il y a le CEMO qui exerce des mesures éducatives à destination des enfants et de leurs familles. Il y a nous, la prévention spécialisée, qui se divise en deux antennes. Donc, on est sur le territoire, nous, de Digne-les-Bains. Et il y a nos collègues qui sont sur le territoire de Manosque. Il y a aussi des médiateurs devant les lycées. Sur le 0405, ça c'est un dispositif plutôt régional. On a des médiateurs devant les collèges sur Manosque. Nous avons des collègues qui exercent des mesures de CEJJR, engagement jeune, jeunes en rupture, et j'oublie nos collègues du service Trait d'Union, qui pareil est présent et sur Digne et sur Manosque, qui exerce des médiations familiales et qui assure les espaces rencontres.
Alors, ça m'interpelle, des médiateurs devant les collèges et les lycées, ça veut dire quoi? Qu'ils sont postés tous les jours devant...
Oui, ils assurent une présence aux abords des établissements, devant les établissements et aux abords des établissements.
Et c'est-à-dire qu'ils sont habillés de façon spéciale, comment et qui vient vers eux, comment ils interviennent?
Alors nos collègues médiateurs, ils sont facilement repérables, ils ont un vêtement avec le titre de médiateur et le logo de l'ATSEA, oui.
C'est un dispositif du coup qui est porté et par la région et par le département, du coup par la région pour les lycées et puis par le département pour les collèges.
Et ça existe depuis longtemps?
Alors, à la TCA, ça
devait faire... je crois que les premiers, ça devait faire 2015. Pas moins de 10 ans,
voilà, ça devait être une petite dizaine d'années. Oui, c'est ça.
Ah, quand même, oui, une petite dizaine d'années. Bien. Ça fait beaucoup de missions, tout ça.
Oui, alors on va essayer de se concentrer un petit peu, du coup, sur nos missions à nous, puisque donc nous, on est le service de prévention spécialisée. Donc nous sommes trois et on intervient essentiellement sur un public de 10 à 21 ans. Donc ça, c'est vraiment nos missions. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un outil de la prévention spécialisée, mais notre action principale, on va dire, le travail de rue ou l'aller vert, on l'appelle des deux façons. Et voilà, notre travail consiste donc à aller à la rencontre des jeunes, leur permettre de nous repérer essentiellement et qu'ils sachent du coup quelles sont les ressources qu'on peut ensuite leur proposer en termes d'accompagnement.
Ok, donc et comment ça se passe concrètement? Les jeunes viennent à vous
Alors très concrètement, c'est essentiellement nous qui allons à eux. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un constat partagé, à savoir que les territoires sont un peu plus vidés des jeunes, on va dire comme ça, qu'auparavant. Donc on est dans les lieux, on est sur les lieux où on est sûr d'en trouver, notamment justement à la sortie des collèges, en tout cas sur Digne. C'est comme ça qu'on assure une présence régulière à la sortie, le plus souvent possible dedans, en partenariat avec eux. Et sinon, on est dans la rue, dans les quartiers, sur le territoire. On est en marche, en présence sociale, en déambulation, on va dire, régulière. Et on passe sur les territoires divers et variés en insistant un peu plus là où on sait qu'on va trouver des jeunes.
Donc avec un gilet aussi spécial?
Non. Alors, on a juste un petit sac à dos où c'est marqué dessus la Prève, mais c'est assez discret. Mais les jeunes, assez rapidement, on leur donne ce repère. On intervient notamment en fin d'année scolaire, on intervient sur les CM2 pour leur dire qu'on sera présent lors de leur entrée en 6e devant leur collège et que nous reconnaîtrons avec ce petit sac et qu'on leur dit souvent qu'on est à 2 aussi toujours ou 3, c'est plus rare. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment qu'ils sachent que c'est nous qui on est et on pose les bases à ce moment-là avec eux.
Donc, est-ce qu'on en vient tout de suite à vos ateliers éducatifs, à vos chantiers éducatifs ?
Oui, alors, on est là ce matin essentiellement pour parler de cet outil-là. Mm-hmm. Parce que la Prève, au-delà d'être présent dans la rue et d'aller à la rencontre des jeunes, l'idée c'est de pouvoir les accompagner ensuite, selon leurs besoins, selon leur âge, selon les besoins qui se présentent entre 10 et 21 ans, on revient à cette tranche d'âge qui est très large, et les chantiers éducatifs font partie de nos outils, et à partir de 14 ans, du coup, les jeunes peuvent faire appel à nous, dans ce cadre-là, pour différentes raisons.
Je voulais revenir là-dessus. J'ai fait plusieurs reportages auprès de la CA 04, notamment quand ils refont les peintures de barrières et tout.
Exactement.
Ça.
Exactement.
Donc il y a un côté éducatif, pour lutter contre les incivilités. Ça fait partie des choses importantes à leur apprendre. Et puis ils sont rémunérés aussi.
Alors, oui. Le côté éducatif pour lutter contre les incivilités, je ne le mettrai pas ensemble, mais par contre, de les mettre en action dans quelque chose qui réhabilite certains mobiliers de la ville ou autre, et d'être vu par des jeunes, d'autres jeunes, quand c'est dans leur quartier ou quand c'est en place centre-ville, ça permet de sensibiliser effectivement autrement à ce que peut-être d'autres jeunes fassent plus attention à ce qui vient d'être fait. Les chantiers éducatifs, c'est notamment des peintures de barrières et autres, mais il y a eu des chantiers éducatifs qui étaient plus, on va dire, artistiques, avec notamment des travaux avec des graffeurs. Et donc ça, c'est souvent bien bien respecté, parce que déjà c'est porteur, on va dire, auprès des jeunes. Et puis encore une fois, quand on voit que c'est des jeunes qui font, ça entraîne autre chose que ce que ça peut entraîner si on ne sait pas qui l'a fait quand.
Par exemple, les graphes qui sont sous le pont à l'entrée de Digne. Alors, c'est fait par des.
Ceux-là non, mais vous avez par exemple la petite les transformateurs électriques, notamment vers alors le rond-point. Je ne vais pas citer le magasin, mais pas loin de l'hôpital. Vous avez une tour avec dessus. Oui. Voilà, celui-là, c'est un chantier à DSEA qui est signé. Il y a eu récemment, alors en partenariat avec la Prève, il y a eu un mur d'expression fait au pôle social du CCAS. Je ne sais pas si, pôle social du CCAS, tout un mur a été refait par un graffeur en collaboration avec le pôle social, en collaboration avec des jeunes du Collège du Sacré-Cœur. Et nous, on était là en soutien pour encadrer les jeunes toute la semaine.
Oui, c'est important, ça. C'est quand même plutôt sympa de leur apprendre à faire des beaux tags artistiques plutôt que d'écrire n'importe quoi sur les murs. Ouais.
Alors effectivement, ça leur laisse un peu moins de liberté, on va dire, d'expression, mais ils ont toute la notion du coup du travail qu'il y a autour, de toute la préparation, parce que quand ils se rendent compte du travail que c'est, avec un graffeur qui est professionnel du coup, ça leur permet de mesurer que c'est un métier, et du coup, eux rentrent dans cette démarche-là aussi d'écoute des consignes. Voilà, ça c'est le chantier, on va dire, sympa, entre guillemets, parce que là, pour le coup, c'était un chantier participatif, pas éducatif, on était en collaboration avec le CCAS sur le mur du pôle social, mais des chantiers éducatifs, eux, sont vraiment, on va dire, portés par des professionnels au départ, puisque au départ il y a un donneur d'ordre, en tout cas, soit c'est la mairie, soit c'est un bailleur social, qui ensuite nous mettent souvent à disposition, en tout cas pour les bailleurs sociaux, c'est régulier, un technicien qui va vraiment amener son savoir-faire et ses compétences et qui vont nous permettre du coup d'encadrer de façon plus professionnelle et sécurisée, parce que nous, on n'est pas des techniciennes, on est éducatrices toutes les trois et on sait faire plein de choses, mais c'est pas notre métier que d'être dans le technique et dans la réhabilitation qui est attendue, quoi.
Donc ces ateliers, pardon, vous avez... Maud.
Oui, je voulais aussi ajouter toute la dimension où en fait on accompagne les jeunes dans une réelle démarche de mise en emploi. Il y a un contrat de travail, il y a une visite médicale. Pour ça, il faut fournir des papiers. Et donc tout notre travail aussi, c'est de les accompagner dans cette dimension-là pour leur avenir et être un peu plus au clair sur ce que c'est que être en relation avec un employeur et rendre, être présent aux heures où on leur demande, etc.
Parce que comme vous parlez, est-ce que c'est à partir de 14 ans, est-ce que c'est des jeunes qui sont plus scolarisés ou...
Pas forcément, puisque la plupart du temps, on essaye d'organiser ces chantiers éducatifs sur des temps de vacances scolaires.
Mmh. Ouais. Et donc, les jeunes, ça leur permet de se confronter au monde du travail, d'avoir la satisfaction d'avoir un petit salaire.
Exactement.
Qui est pas, enfin, ça leur fait un peu d'argent de poche, c'est ça?
Oui, puis c'est pas négligeable. En tout cas, c'est selon le code du travail, en pourcentage du SMIC, en fonction de l'âge des jeunes qui viennent.
Donc, l'atelier qui va venir, là, la semaine prochaine.
Alors, le chantier éducatif qui arrive, effectivement, est monté en partenariat, du coup, avec H2P, avec un bailleur social. Et donc, ils nous ont proposé un chantier de petites tâches de peinture et autres. Il y aura certainement des petites tâches de jardinage, des choses sans machine. C'est important de le savoir, parce que les jeunes ne sont pas... majeur, d'ailleurs sur ce chantier-là, on n'a pas de majeur, je crois. Ça peut arriver, mais pas sur celui-ci. Et du coup, voilà, ils sont encadrés par le technicien H2P et nous les accompagnons en présence continue en réalité. Puisque nous sommes, voilà, ça fait partie de notre travail et surtout, ça nous permet d'avoir des temps avec eux aussi bien individuels qu'en collectif. Il y a les temps de travail où on pourra, puisqu'on sera assez nombreuses, être vraiment chacune auprès d'un jeune et tourner. Mais il y a tous les temps aussi autour du travail. Il y a les temps de pause méridienne. Il y a les temps de pause tout court. Et puis il y a tout ce temps de préparation en amont du chantier qui fait qu'on les rencontre et qui fait qu'on établit déjà le contact.
Donc là, il y a combien de jeunes qui sont inscrits ?
Alors, pour l'instant, on a 3 jeunes, voilà, de sûr. On est aussi sur ces chantiers-là confrontés à certaines réalités, à savoir que bah, parfois on aimerait pouvoir dire oui à tous les jeunes et parfois on ne peut pas pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont pas l'âge ou soit pour d'autres raisons voilà, liées à des problématiques administratives.
Voilà. Est-ce que ce sont des jeunes qui se connaissent, qui viennent du même endroit ?
Alors, pas forcément, je vais vous dire pas forcément, voilà. Nous, on essaye quand on peut, quand on a assez de jeunes qui sont volontaires, de constituer les équipes pour que ce soit un peu équilibré, pour que ce soit pas forcément 4 potes qui travaillent ensemble, on va le dire comme ça, même si franchement la plupart des fois où c'est arrivé, ça les a pas empêchés de se mettre au travail parce qu'ils ont conscience de ce qui est attendu et parce que eux attendent leur salaire au bout en réalité. Donc ils savent que une heure non travaillée est une heure non payée, ils sont sur quelque chose de réel.
Bien, donc c'est tout bénef pour les partenaires et pour les jeunes qui sont inscrits.
C'est vraiment l'idée, hein, c'est que tout le monde s'y retrouve. Nous, ça nous permet du coup de faire un peu mieux connaissance avec ces jeunes-là, puisqu'on a plus de temps avec eux. On a rarement autant de temps avec les jeunes que ou en chantier éducatif ou éventuellement en séjour. Quand on peut partir 2 ou 3 jours avec des jeunes, c'est aussi voilà des moyen pour nous de passer du temps avec eux et encore une fois qu'ils nous repèrent assez pour pouvoir refaire appel à nous en cas de besoin ou encore une autre possibilité, c'est de nous réorienter d'autres jeunes qui auraient besoin, qu'ils connaîtraient, et ça arrive régulièrement ça par contre. Des jeunes qui nous connaissent et qui disent à des amis ou à des collègues, ben voilà, t'as ce souci-là, va voir les éducs de rue, va voir la prêve, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour t'accompagner.
Donc vous dites c'est seulement 2 chantiers éducatifs par an.
Non, c'est 4 à 5.
4 à 5
en tout. Oui. 3 chantiers mairie et 2 chantiers bailleurs sociaux en général par an. On est sur ce rythme-là.
Mairie, c'est-à-dire c'est eux qui financent...
Exactement. C'est la mairie qui, du coup, on voit avec eux, en général, on organise une réunion avec eux, on voit ce qu'il y aurait à faire, les possibilités qu'on a, nous, de répondre à leurs besoins, parce qu'on peut pas tout faire non plus. Et en fonction de ça, on définit un calendrier de chantier éducatif dans l'année.
Donc, juste 3 chantiers mairie et 2 ?
Et 2 de bailleurs sociaux. Ça peut être H2P. Récemment, on a travaillé avec Erilia.
Oui, Maud.
Oui, j'ajouterais un troisième bénéficiaire. Vous disiez que c'est tout bénef pour les jeunes et je mettrais aussi pour les habitants du quartier, on va dire, où on intervient, puisque ces chantiers participent tout de même à l'embellissement un peu de leur lieu de vie et de voir des jeunes sur ces actions-là, ça peut parfois un peu
débloquer des schémas.
Exactement, démonter un cliché qu'on peut avoir. sur le jeune actuellement.
Voilà, il peut permettre une meilleure intégration.
Oui, de changer les regards.
Mmh. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Un autre regard. Est-ce que vous avez des jeunes qui quittent un chantier éducatif? Ça arrive en cours de...
Alors, votre question me permet de rebondir sur deux choses. La première, oui, ça peut arriver. Si un jeune n'est pas fondamentalement prêt à suivre, parce que ça demande une constance, ça demande de répondre à des horaires, voilà, qui sont fixés, c'est pas à la carte. Donc du coup, effectivement, certains jeunes peuvent ne pas tenir parce qu'ils sont tellement parfois... Parce que là, on a parlé des jeunes qui sont scolarisés et qui font ça pendant les congés, mais on a aussi des jeunes qui sont déscolarisés du coup et qui peuvent... essayer de raccrocher un rythme par ce biais-là, mais ce biais-là parfois il est un peu trop contrasté avec leur quotidien. Du coup, ça peut décrocher, mais c'est pas fréquent. Mais ça me permet surtout de rebondir sur autre chose, c'est que un autre acteur important donc de ces chantiers éducatifs, c'est l'association intermédiaire qui établit les contrats, parce qu'en fait il y a l'employeur, mais il y a l'association intermédiaire. Sans eux, on ne pourrait pas faire ces chantiers éducatifs. C'est eux qui établissent ces contrats, c'est eux qui montent les dossiers, c'est eux qui font les demandes à la direction du travail pour avoir à l'inspection du travail pour avoir les autorisations pour les jeunes. Voilà, donc ça c'est important parce que nous, voilà, on est obligé de fonctionner en partenariat avec tous ces gens-là, sinon on ne pourrait pas monter ces chantiers qui sont, encore une fois, des situations de travail réelles.
Est-ce que d'une année à l'autre, ce sont les mêmes qui reviennent? Ils ont droit qu'à un chantier ou deux?
Alors, normalement, on fonctionne à un chantier par jeune, pour différentes raisons, parce que on essaie de que ce soit équilibré et que chacun puisse avoir sa chance. Il peut arriver qu'on le repropose à un second jeune, mais c'est parce que une seconde fois à un même jeune, mais ce serait parce qu'il y aurait vraiment quelque chose de particulier derrière. Un travail particulier à faire ou parce que lui en aurait particulièrement besoin, parce que, voilà, encore une fois, ça répond à quelque chose pour eux en termes de finances qui n'est pas négligeable.
Par rapport aux bailleurs, est-ce que ça peut arriver aussi que, par exemple, H2P actuellement puisse avoir envie de continuer un travail avec un jeune?
Alors deuxième bonne question. En fait, c'était là que je voulais venir tout à l'heure, c'est que l'association intermédiaire aussi derrière, en tout cas c'est PVS, actuellement c'est PVS Laser, qui est établi à Manosque, qui a une présence sur Digne, qui en fait est une association, alors ce n'est pas une agence d'intérim, mais ils font office d'eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer une suite à des jeunes, ils les rentrent dans leur liste de jeunes potentiels auxquels ils peuvent faire appel sur certaines missions si le jeune est volontaire. Donc ça déjà, ça peut vraiment leur permettre de rentrer à nouveau dans une démarche professionnelle, en sachant que c'est pas quelque chose de pérenne, que ce sont des missions, mais ça peut réengager des choses. Est-ce qu'un bailleur social a déjà derrière? Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas le recul nécessaire, mais c'est pas impossible qu'un jeune soit repéré par un bailleur social ou par l'employeur en général, oui.
Vos missions par rapport à mission locale, est-ce que c'est la mission locale? Je ne sais pas si vous avez des contacts avec eux.
C'est un partenaire essentiel pour nous. La différence est vraiment cette dimension de l'aller vers. La mission locale, les jeunes vont y aller parce qu'ils ont déjà repéré ce lieu. Ils savent ce qui, voilà, donc ils vont y aller d'eux-mêmes. La prévention spécialisée, elle sert vraiment à aller vers les jeunes, aller sur leur lieu de vie, essayer de les repérer et les aider dans leurs difficultés pour certains ou dans leurs projets pour d'autres. Et donc, ça nous arrive plutôt d'orienter un jeune vers la mission locale parce qu'il ne connaît pas ce dispositif. C'est complémentaire.
D'accord.
Mmh. Oui, nous sommes sous une action éducative. La mission locale a des ressorts qu'on n'a pas au niveau juste financier, ou des propositions à faire aux jeunes en termes d'accompagnement qu'on n'a pas, mais effectivement c'est complémentaire.
Et j'ajouterais que, on n'en a pas parlé encore, mais que les principes de base de la prévention spécialisée, donc c'est ce mot qu'on utilise là, aller vers les jeunes, mais c'est de la libre adhésion de leur part et de l'anonymat. D'où aussi le fait qu'on n'ait pas une veste ou un véhicule estampillé prévention spécialisée pour assurer quand même une discrétion sur le territoire et vis-à-vis d'eux.
Qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser comme question?
Nous, on peut peut-être ajouter une dimension où c'est Clara qui va pouvoir en parler peut-être plus facilement.
Moi, je voulais rajouter en fait qu'on peut être suivi sur les réseaux sociaux. On a des comptes sur Facebook qui s'appellent Éduc de Rue Digne ATCA. On peut être retrouvé sur Instagram, Éduc de Rue ATCA pareil. Et sur Snap, c'est Éduc de Rue La Prève. Donc voilà, on met régulièrement des publications, des stories pour savoir un peu ce que nous on fait en tant qu'éducatrice de la prévention spécialisée. Et dernièrement, moi je suis en train de me former promeneur du net, où là c'est une demande nationale. En fait, c'est des personnes qui ont des comptes sur les différents réseaux qui peuvent être retrouvés par les jeunes, ou le jeune ou moins jeune d'ailleurs, et qui peuvent nous contacter pour des besoins, enfin des problèmes sur les réseaux, par exemple si quelqu'un est harcelé régulièrement sur sur Snap ou sur un autre réseau, ils peuvent nous demander de l'aide, ou nous on peut essayer aussi de repérer s'il y a des besoins en visionnant des stories de jeunes qu'on suit. Voilà.
C'est vrai que c'est intéressant. On en avait déjà parlé sur l'antenne, mais c'est assez lointain maintenant, les promeneurs du net. Donc c'est la formation que vous faites actuellement.
Oui.
Et qui est faite par qui?
Du coup, c'est les petits débrouillards.
Oui, c'est ça. En fait, ouais. C'est le coordonnateur des petits débrouillards, et c'est un dispositif qui est porté par la CAF.
Porté par la CAF, d'accord.
Et après, on peut faire aussi des interventions dans les collèges, dans les lycées.
Est-ce que c'est une réalité actuelle? Enfin, on vous parlait de la prévention spécialisée et présente sur les territoires, les quartiers, sur les lieux de vie. Et en fait, l'évolution actuelle fait qu'il faut être présent sur le territoire du numérique. Mmh. Parce que c'est là que sont présents les jeunes.
On espère juste qu'on a été bien compréhensible, on va dire, pour l'ensemble des auditeurs, et puis on reste disponible s'il y a quoi que ce soit. On a un local, ça on peut le préciser, peut-être la prévention spécialisée, un local physique qui est au 40 allée des Fontainiers à Digne-les-Bains, dans la rue de Carrefour City. C'est le repère qu'on donne aux jeunes en général, et là ils trouvent.
Et ça veut dire que des jeunes peuvent venir à vous?
Absolument. C'est un local qui nous permet de les accueillir sans rendez-vous. Donc on leur dit en général, passez-nous un petit coup de fil pour être sûr qu'on est là. Voilà. Et ils viennent se poser. Ils peuvent venir juste nous dire bonjour, mais ils peuvent parfois juste avoir besoin aussi d'un espace d'écoute, de parole. Et tout simplement, certains viennent pour refaire un... Alors, là, on va revenir au partenariat avec la mission locale et aux missions communes, mais c'est vrai que certains jeunes nous interpellent pour faire leur lettre de motivation, leur CV, c'est des choses simples, et ça peut être des problématiques beaucoup plus lourdes qu'ils viennent aborder avec nous pour trouver des ressources, du coup, pour s'en sortir.
Sur les missions de l'ATCA, donc, on parle d'enfants, d'ados, mais aussi d'adultes, c'est aussi...
Alors, la prévention spécialisée s'arrête à 21 ans.
Après,
voilà, après, il y a un relais qui est pris, notamment par le dispositif du CJJR, qui va jusqu'à 26. Mais voilà, nous allons jusqu'à 21. Et les jeunes, en fait, quand on les accueille au local, c'est vraiment pour nous, encore une fois, l'occasion de prendre du temps avec eux. Parce que on est dehors par toute saison, mais autant se dire qu'en hiver, on va trouver moins de jeunes. Donc quand ils savent qu'il y a un endroit où se mettre un petit peu au chaud et où on peut se poser, et ne serait-ce que prendre un café ou boire quelque chose et discuter, il nous arrive régulièrement de faire des jeux de société avec les jeunes dans le local, mais c'est uniquement à viser, encore une fois, de mieux les connaître, de voir comment ils fonctionnent, d'établir un contact, que le lien de confiance... Voilà, ça c'est quelque chose de très important pour nous, que la confiance se mette en place pour qu'ils puissent faire appel à nous. Et voilà.
Pour revenir à vos fonctions encore d'éducatrice spécialisée en prévention spécialisée à l'ATCA, donc vous Sonia, ça fait que 2 ans que vous êtes...
2 ans et quelques mois, oui.
2 ans et quelques mois, et Maud et Clara, 1 mois, vous êtes encore toute fraîche dans le service. Est-ce qu'en 2 ans, vous avez pu... retrouver ou voir des effets positifs sur les jeunes qui ont participé à des chantiers éducatifs, ou c'est trop tôt pour...
Non, alors ce retour-là, on l'a effectivement de façon très aléatoire, on peut pas du tout... mais par contre, oui, il y a des jeunes qui viennent nous revoir, qui nous disent que ça leur a fait du bien, et que certains... Oui, c'est une expérience... En général, c'est une expérience qu'on essaye de rendre toujours positive. Quand il y a des décrochements, c'est vraiment dû au fait que le jeune, encore une fois, ne parvient pas à s'inscrire dans le rythme. Parce que sinon, c'est vraiment une expérience qui est plutôt tous les acteurs font en sorte que ce soit dans la bienveillance que ça se passe, parce que c'est un tout tellement, c'est tellement fragile ce premier contact avec le monde du travail que l'idée, alors c'est pas non plus de leur faire croire que tout va être comme ça par la suite, parce qu'on leur explique aussi que c'est une expérience, encore une fois, qui est éducative aussi, et du coup qui se passe dans une certaine douceur qu'on ne retrouvera pas forcément dans le monde du travail. Mais cela étant dit, on pose assez de contraintes pour faire en sorte qu'il y ait cette passerelle qui se fasse et qu'ils puissent appréhender cette première expérience positivement.
Et alors, Maud et Clara qui êtes là depuis un mois seulement, est-ce que vous étiez déjà dans cette démarche-là avant de travailler à la CA?
Moi non, c'était complètement différent. Moi j'étais dans un internat, du coup c'était différent parce que c'était pas dans le milieu ouvert. Du coup il y avait un cadre, il y avait un établissement, enfin voilà. Et du coup moi je découvre beaucoup pour l'instant. En plus j'ai la chance d'avoir des super collègues, donc ça c'est chouette. Mais c'est une très belle découverte en tout cas du métier de l'éducation spécialisée qui est en fait très vaste. Et du coup voilà, c'est une nouvelle branche que j'apprécie à découvrir.
Et vous, Maud ?
J'ai une longue expérience en ce qu'on appelle le milieu ouvert dans le métier d'éducateur spécialisé. Et là, je sors de plusieurs années où j'intervenais au sein des familles et j'avais un besoin de revenir en amont encore de ces situations-là et vraiment d'aller vers les jeunes en prévention, vraiment au premier stade du travail d'éducateur.
Ben, je vous remercie toutes les trois. J'aurais bien aimé qu'on puisse parler aussi de l'ouverture de ce centre éducatif fermé. Est-ce que c'est dans vos compétences d'en parler? Non.
Pas particulièrement, ouais. Surtout que c'est un nouvel établissement et on peut leur en parler et qu'ils
viennent
puissiez les rencontrer.
Ça serait très bien.
Même titre qu'aujourd'hui nous sommes venus vers vous. Et nous vous proposons aussi de venir vers nous, si c'est possible, la semaine prochaine sur le chantier éducatif. Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Nous avons un point presse organisé jeudi 30 à 11h.
D'accord. Où?
Bonne question. Au centre du quartier du Balistère, à Digne.
Centre du quartier du Balistère, c'est où?
Vers la pyramide vitrée un peu.
Entre le musée Gassendi et la Grande Fontaine sur la gauche. Vous avez quelques immeubles, c'est le quartier du Balistère.
D'accord.
Il y aura un petit peu de monde, donc on sera repérable.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, donc Sonia, Maud et Clara, pour nous avoir un peu plus orientés, expliqué ce qu'étaient vos missions d'éducatrice spécialisée en prévention spécialisée.
Merci à vous.
Merci.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.